Voilà, bonjour à tous. Première table ronde sur une thématique avec deux moments de rencontre, maintenant et tout à l'heure. Nouveaux enjeux et possibilités missionnaires au travers des médias. Quand on dit communication dans l'Église, eh bien, il y a une communication ad intra, un besoin de formation, un besoin de mieux qualifier notre appartenance au Christ. Et donc, il y a une communication pour aider à travers un certain nombre d'instruments et d'outils cette formation des chrétiens, cette communication du message de l'Évangile. Et puis, communication ad extra, qui s'adresse au monde contemporain à partir d'outils qui ont été mis en œuvre. Donc autour de cette table, il y a un certain nombre de personnes qui vont nous parler de leur expérience. Je vous présente d'abord Claude et Cathy Brenti, qui sont directeurs des éditions des Béatitudes, donc membres de la communauté des Béatitudes, mariés depuis 33 ans, et qui a une très forte et belle expérience à la fois du renouveau charismatique et qui ont eu aussi des responsabilités à l'instance internationale du renouveau. Ensuite, Jean-François Baudin, qui se trouve à mes côtés, qui est directeur des programmes de RCF National, directeur de l'information et qui présente régulièrement l'émission Questions d'actualité. Hubert de Torcy, qui est rédacteur en chef de L'Invisible, premier mensuel national gratuit catholique en France, distribué depuis quelques mois et qui est membre de la communauté de l'Emmanuel. Donc chacun développe un certain nombre d'outils, d'instruments de communication qui s'adressent à la fois au public des chrétiens et en même temps qui aussi se veut un instrument d'évangélisation vis-à-vis de beaucoup de gens qui ignorent tout de la foi, qui restent sur le seuil. Alors je vais demander à l'un et à l'autre, suivant la règle qui vient d'être énoncée, de pouvoir donner une attestation en quelques minutes et puis ensuite qu'on ait un échange entre nous, une table ronde. Cathy et Claude Brenti, à vous la parole.
Bonjour, merci de nous avoir invités. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Donc voilà, on est dans la communauté avec Cathy des Béatitudes depuis 33 ans maintenant. Et ce qui est intéressant, je voudrais juste dire quelques mots pour commencer par en disant que, vous savez, la communauté des Béatitudes, qui s'appelait à l'époque l'Union de Judas et l'Agneau Immolé, c'est une communauté de vie et de prière qui est née donc petit peu après la naissance du renouveau charismatique en France. Et pendant environ 8 ans, il n'y a justement eu pas tellement d'activités d'évangélisation ou d'apostolat. C'était surtout une communauté donc, de vie et de prière, comme je dis. Mais l'expérience qu'on a fait dès le début, et j'en dis un mot parce que donc, ce forum se qualifie par deux mots, communion et évangélisation, c'est de vivre une expérience de communion. Et ça nous a beaucoup marqué. Parce que la première expérience qu'on a fait, c'est de constater que, on dit parfois, la communion en elle-même est évangélisatrice. Et c'est assez intéressant à souligner parce qu'il y avait une dimension très très forte de témoignage uniquement par le fait de garçons et de filles, hein, jeunes, bon, qui prient, qui vivent ensemble, qui vivent donc une dimension de partage des biens, etc. Donc cette dimension de communion en elle-même est une parole. C'est un peu l'expérience qu'on a fait dès le départ. Elle dit quelque chose. Elle exprime aussi la présence de quelqu'un et la présence de celui qui est source de communion. Pour ça, je crois que c'est effectivement très important de pouvoir rapprocher les deux mots, hein, communion et mission. Et mais en même temps, ce témoignage rendu, il est rendu uniquement à des personnes qui viennent, qui nous visitent. Et c'est pour ça que finalement, je crois, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que c'était important qu'il y ait aussi une dimension plus explicite d'évangélisation, de témoignage à travers les médias. C'est ainsi que sont nés les apostolats médias dans la communauté. Il y a eu d'abord, à travers l'audio, hein, les cassettes à l'époque, et puis à travers la presse, donc la revue Feu et Lumière, mais aussi dès le départ à travers la radio. Il faut mentionner que la radio du diocèse de Nîmes, juste à côté, a été fondée par quelqu'un des Béatitudes et qui en est encore aujourd'hui le directeur. Et c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que, eh bien, à travers les médias, il y a une démultiplication du témoignage. Hein. Quand on a commencé à éditer des livres, Katie et moi, on était donc à Nouant-le-Fuselier, où on habite encore, et on animait en même temps un centre spirituel, hein, qui était un lieu de retraite, où on accueillait, et on accueille encore des gens qui font des retraites, mais c'est vrai que bien, quand on fait une retraite, si vous voulez, même s'il y a 80-100 personnes qui viennent, en 5 jours, on touche 80 ou 100 personnes. Quand on édite un livre, très vite, on s'est rendu compte que si on l'édite, non, bon, en moyenne à 2 ou 3 000 exemplaires, avec un livre, on touche 3 000 personnes. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que cet aspect média par le livre était important parce que ça permettait de rayonner, de témoigner, quoi. Donc les apostolats de médias sont nés comme ça, et tout de suite, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une spécificité de chaque média, si on peut dire. Je mets le livre dans les médias, même si c'est un choix, c'est un média parmi d'autres, disons que ça permet de... C'est une médiation, hein, ça permet de véhiculer une parole. Et donc cette complémentarité des différents médias, et en même temps avec chaque média qui est un peu spécifique. Alors, c'est vrai que bon, nous, on s'est attaché au livre, mais toujours dans la complémentarité avec les autres médias. Et je crois que ça, c'est un point important et un enjeu aussi important pour aujourd'hui. Donc ça, j'en reparlerai peut-être à la fin. Alors, donc, la dimension particulière du livre, je ne sais pas, j'ai un peu réfléchi sur le fait que qu'est-ce qui est, je dirais, un peu spécifique au livre. D'abord, de dire que même s'il y a plein de médias qui se développent dans beaucoup de domaines, ça demeure quand même un moyen de communication fondamental. C'est le cardinal Poupart qui a dit ça un jour, qui est donc responsable un peu de tout ce qui est culture, hein, au Vatican. Et ça reste un moyen de communication spécifique, fondamental, un peu particulier. Il y a, certains disent, une force particulière de l'écrit. Il peut être aussi un compagnon pour chacun de nous pendant un certain temps, un compagnon de l'homme. Il nous permet de cheminer sur un point ou avec quelqu'un qui donne un témoignage ou qui développe une pensée, vous voyez, il permet la réflexion avec une certaine dimension d'approfondissement. Et puis il y a aussi un rapport spécial entre l'homme et le livre, hein. Donc ça, c'est intéressant, il permet un certain développement. Bon, enfin voilà, tout ça, c'est plus je dirais ce qui un peu définit la spécificité d'un livre. Pourquoi nous on a démarré pourquoi on a commencé, je dirais, plutôt en éditant des livres? Eh bien, c'est vrai qu'à l'origine, avant de rentrer dans la communauté, donc on est un peu, on a fait tous les deux une rencontre avec le Seigneur, et c'est vrai qu'il y a certains livres qui ont eu un rôle important. Et il y a 25-30 ans, par exemple, il y a un livre qu'on lit encore aujourd'hui qui s'appelle La Croix et le Poignard, hein, qui était d'un pasteur pentecôtiste, et qui témoignait comment des drogués pouvaient sortir de la drogue par la prière, etc., et que le Seigneur pouvait les guérir. Et des témoignages comme ça, très puissants, à travers des livres, nous ont fait vraiment avancer, en nous montrant ce que le Seigneur peut faire, hein, dans le cœur d'un homme, et puis pour le guérir, ou au contraire, à travers quelqu'un qui croit en la puissance de la parole de Dieu. Donc on a vu, un peu après notre conversion, on a vu l'impact que peut avoir certains livres sur nous-mêmes ou sur des personnes de notre entourage. Alors bien sûr la Bible, hein, mais la parole de Dieu elle-même, mais aussi donc des livres de témoignages qui touchent le cœur ou qui touchent l'intelligence, bon, ça dépend, etc. Donc on a vu que le livre pouvait vraiment être un moyen puissant d'évangélisation, hein. Et c'est pour ça qu'on a lancé cet apostolat. Et en fait, pour la petite histoire, j'aime bien raconter que en même temps, bon, on en a parlé un peu entre nous, puis on s'est dit, ben, il y a déjà tellement d'éditeurs, pourquoi est-ce qu'on va commencer une nouvelle maison d'édition? Alors, en bon charismatique, on a prié, on a ouvert la parole de Dieu, et on est tombé sur, moi je suis tombé sur l'évangile de Luc, tout au début, quand Luc dit, puisque beaucoup ont entrepris de composer un écrit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis les témoins, etc., moi aussi j'ai décidé d'écrire un évangile, si vous voulez. Autrement dit, Luc a dit, c'est pas parce qu'il y a déjà d'autres évangiles qui sont écrits que je vais me taire. Et alors, je pense que c'est intéressant pour chacun de nous, parce que c'est pas parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà qu'il faut rien faire, si vous voulez. Donc, on a démarré cet apostolat à travers le livre. Je voudrais juste, puisque c'était un peu la question, développer quels sont les enjeux, quelques enjeux, donner quelques idées, quelques enjeux pour aujourd'hui. D'abord, c'est sûr que, je ne sais pas s'il y a des futurs auteurs parmi vous, hein, ou des gens qui sont déjà auteurs, on a décidé de faire un certain type de livre. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éditeurs chrétiens qui se positionnent de cette façon-là, c'est-à-dire de faire des livres vraiment dans une perspective d'annonce de la parole et d'évangélisation. Hein. Et c'est vrai, j'étais touché hier soir par ce qui était dit de la pédagogie un peu de Jésus à travers les disciples d'Emmaüs, parce qu'en fait, les quatre points qui pour nous sont aussi importants à travers les livres, c'est effectivement un peu de proposer aux gens de se situer dans cette perspective qui était celle de Jésus à Emmaüs, c'est-à-dire d'abord de rejoindre les gens dans leur questionnement, hein, ce qui distingue un livre d'une thèse, si vous voulez, mais vraiment de rejoindre les livres, de rejoindre les personnes dans les questions qui se posent. Ensuite, de toucher leur cœur, hein, les disciples d'Emmaüs, bon, etc., vous connaissez. Les libérer, permettre que s'opère une certaine libération des deux grands obstacles, si vous voulez, que sont l'aveuglement et l'incrédulité. Hein, pour Emmaüs, c'était ça aussi, leur dureté de cœur, leur incrédulité, et puis les amener à rencontrer Jésus. C'est vraiment la perspective des livres, à travers... toute une palette de je dirais toute une diversité de livres. Il y a certains livres qui sont vraiment explicitement des livres de première annonce. On a fait récemment ce livre avec les gens du Renouveau de France, Dieu est amoureux, vous voyez, qui est vraiment un livre fondé sur des témoignages, sur l'explicitation de certains points du charisme, etc., du kérigme, pardon, pour montrer à quel point Dieu aime chaque homme. Hein. Bon, d'autres livres qui sont plus des livres d'approfondissement, des livres liés aussi à des événements qui permettent qu'un événement qui a déjà une importance en soi ait un retentissement beaucoup plus important. Par exemple, récemment, Cathy a organisé une retraite pour prêtres à Ars, 8200 prêtres. On a tout de suite pu faire un livre derrière. Et déjà, ce livre est traduit en je ne sais pas combien de langues, elle pourra peut-être le dire tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes, finalement, dans le cadre de l'année sacerdotale, qui peuvent être touchées à partir d'un événement qui se produit quelque part et qui lui-même est important, mais a un retentissement limité. Alors, vous voyez, ces livres qui permettent de partager une expérience, hein, de donner un témoignage, toujours à partir d'une expérience vécue, hein, une expérience de conversion, une expérience spirituelle. On a beaucoup de livres où on essaye, à travers le livre, de pouvoir finalement... vous voyez, laisser la coupe déborder. La vie communautaire, elle est belle en soi, mais elle n'est pas que pour nous. Donc, permettre qu'il y ait aussi un partage d'une expérience spirituelle pour provoquer un retournement, c'est-à-dire permettre que les gens changent de vie. Hein. On dit, notre slogan, c'est des livres à vivre. C'est-à-dire, ce n'est pas des livres uniquement pour remuer des réflexions intellectuelles, mais pour que les gens... Enfin, provoquer un changement de vie. Hein. Alors, les enjeux nouveaux, c'est effectivement tous ces développements un peu nouveaux avec la connexion et l'interactivité dont il a été question hier soir avec tous les autres médias. Les enjeux nouveaux aujourd'hui, on y réfléchit beaucoup et c'est intéressant aussi de vraiment travailler ensemble. Par exemple, pour le livre, c'est les deux développements un peu intéressants du livre, c'est tout ce qui est le livre audio, hein, c'est-à-dire le livre qui est publié en version audio, donc sur support CD, etc., et aujourd'hui le livre numérique. Donc c'est vrai qu'à partir de ces nouveaux champs, certainement il va y avoir des nouveaux types de livres qui seront des livres, le livre numérique on en reparlera, où il y a une dimension qui peut être inclue de sons, d'images, de vidéos, etc., etc. Bon, ça c'est des aspects techniques et des aspects intéressants, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui dans le monde de l'édition et de l'édition chrétienne, et en même temps, des champs nouveaux à explorer. Je voudrais partager une expérience assez récente qu'on a fait avec certains éditeurs. Vous savez qu'on a dit hier, et c'est vraiment effectivement aussi quelque chose de très important, qu'un des grands enjeux de l'évangélisation aujourd'hui, c'est d'être présent dans des lieux spécifiques, et pour nous en particulier, le monde de la culture. Dans le Renouveau, on a vraiment l'habitude d'organiser des événements, des sessions, etc. On avait moins l'habitude d'être présent dans le monde de la culture. Et récemment, donc, par exemple, au Salon du Livre de Paris, qui est vraiment un lieu important donc, enfin, au plan culturel, si vous voulez, eh bien, pour la deuxième année de suite, on était 16 éditeurs chrétiens. Il y avait un éditeur juif, mais essentiellement des éditeurs chrétiens. Il y avait les éditions de l'Emmanuel, et puis les Focolari, les éditions de l'œuvre, enfin, des éditeurs de taille petite ou moyenne, qui ont pris un stand collectif qui était intitulé « Éditeurs religieux ». Et c'était, l'an dernier, on avait déjà fait ça. On était 7 éditeurs. Et donc, c'est la première fois, cette année, qu'il y avait autant d'éditeurs sous le label éditeur religieux, c'est-à-dire qui permettait qu'il y ait une présence et une visibilité, eh bien, de, vous voyez, d'éditeurs qui ont pour vocation vraiment d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est important parce que ça donne l'occasion à un certain nombre de personnes qui venaient sur ce salon, eh bien, d'avoir des personnes qui peuvent leur parler de Dieu. Et en même temps, ça donne un témoignage. On avait vécu aussi cette dimension de communion entre éditeurs qui, elle-même, était intéressante et a touché beaucoup de personnes. Les gens disaient, mais vous êtes là, mais vous êtes concurrents, pourquoi vous êtes ensemble, etc., etc. Est-ce que vous entendez bien? Et c'était un très beau témoignage. Et puis, il y a un deuxième point qui me semble important, si vous voulez, c'est que si vous regardez en France aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas encore de salon, par exemple, ou de foire ou de forum du livre et des médias chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des forums comme ça, mais là, il y a certainement quelque chose à faire, de développer des initiatives qui peuvent être des initiatives locales, où eh bien, on crée sur un week-end un événement où il y a des gens qui se rassemblent de différents médias pour montrer cette présence des médias chrétiens dans le monde et ce qu'ils sont aujourd'hui et pour toucher des personnes qui ne seraient pas touchées autrement. Il n'y a qu'un seul endroit, je crois, c'est à Tours, en France, où il y a un salon du livre qui s'organise tous les deux ans et c'est une initiative très intéressante. Et le dernier point, à mon sens, à développer, c'est qu'il y a encore vraiment... finalement, trop peu sans doute de relations entre le monde du livre en particulier, et puis le monde de l'église institution. Vous verrez encore assez peu de livres dans des paroisses, ou assez peu de lieux où il y a vraiment un travail et une réflexion ensemble pour voir comment, je dirais, on peut travailler ensemble pour toucher le maximum de personnes entre ce monde du livre, ce monde des médias et l'institution, l'église. Donc voilà une dernière idée que je voulais lancer.
Voilà, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de radio, qui est un autre média. Je vais vous parler de RCF en faisant un tout petit peu d'histoire. Je ne vais pas être trop long sur l'histoire parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il faut aussi penser à l'avenir. Mais c'est toujours important de savoir d'où on vient. Surtout que les plus jeunes d'entre vous, pardon, ne se souviennent peut-être pas qu'avant 1980, il y avait très peu de radios en France, que des radios créées et gérées par l'État d'une façon ou d'une autre, et qu'en 81, il y a eu ce qu'on appelait la libéralisation des ondes, qui a permis en fait à des tas de personnes de faire de la radio. Ça a été une époque d'aventuriers de la radio, où on était capable de mettre une fourchette sur un toit avec un peu de fil de fer et d'émettre dans un rayon de 100 ou 200 mètres. Il y a eu des tas d'initiatives de cette nature. Et il y a des pasteurs en France, je pense notamment au cardinal Lustiger et au cardinal de Courtrai, qui ont tout de suite senti l'opportunité de se dire « il faut que les chrétiens soient présents dans cet univers qui est en train de complètement bouger ». Ça a été les deux premiers qui l'ont fait, il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi derrière. Et c'est ainsi qu'en 82 sont nés à la fois Radio Notre-Dame à Paris et Radio Fourvière à Lyon. Le cardinal de Courtrai, lorsqu'il a lancé la radio à Lyon, a tout de suite dit « mais faites une radio chrétienne sans complexe ni triomphalisme. Soyez vraiment dans le temps qui est le vôtre, affichez clairement qui vous êtes, mais faites-le à la fois sans complexe, n'ayez pas peur, mais ne soyez pas non plus triomphaliste. » Ça, c'est le premier événement qui a marqué l'histoire des radios chrétiennes en France. Le deuxième événement, et c'est important parce que quand on parle de nouvelle évangélisation, on fait souvent référence à Jean-Paul II, c'est la venue de Jean-Paul II à Lyon. C'était en 1986. Les radios de la région, puisqu'il était venu à Lyon, à Ars, il a été aussi à Annecy et à Paray-le-Monial, les radios de la région qui existaient à cette époque-là, d'autres diocèses avaient créé leur radio à Grenoble, à Annecy, à Saint-Étienne, à Ars, se sont dit, c'est un événement tellement important que si on fait la couverture de la visite du pape pendant ces 3 jours, chacun de son côté, on ne va pas y arriver. Donc mettons-nous ensemble, mettons nos moyens ensemble, mettons nos journalistes ensemble, faisons des retransmissions communes, et puis ce sera la meilleure façon de couvrir ce rassemblement qui était quelque chose de très fort et de très attendu. Voilà. C'est là qu'est née la première idée de réseau. Donc on peut dire quelque part que le réseau RCF aujourd'hui est l'héritier de Jean-Paul II et qu'on est des enfants de Jean-Paul II parce que c'est vraiment sa visite en France qui a permis de travailler ensemble. Je vous dis ça parce que c'est important de voir qu'on n'a que 25 ans d'histoire, c'est peu 25 ans d'histoire, et c'est déjà beaucoup, et qu'il y a eu des événements véritablement fondateurs dans l'histoire de la construction des radios chrétiennes en France. Alors qu'est-ce que c'est que RCF aujourd'hui? Je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps. RCF, c'est 800 000 auditeurs par jour, c'est 1 800 000 auditeurs par semaine, donc on peut dire que c'est un média de masse. La moyenne d'âge des auditeurs, c'est environ 53-54 ans. À titre de comparaison, sachez qu'un auditeur de France Inter ou de RTL, c'est 56-57 ans. Et que la part des auditeurs de moins de 30 ans représente aujourd'hui 25% de l'auditorat. Et c'est la part qui grandit la plus vite, même si elle n'est pas encore majoritaire. Et puis, dernier chiffre pour situer aujourd'hui ce que sont les radios chrétiennes, parce que ce qui s'applique à RCF s'applique à l'ensemble des radios chrétiennes, bien évidemment. C'est que 50% de nos auditeurs sont des gens qui n'ont plus contact avec l'Église ou qui sont non-croyants ou athées, voire parfois d'autres religions. 50%. Voilà. Donc la radio est à notre sens un véritable média d'évangélisation. C'est-à-dire que c'est vraiment le moyen d'aller chercher des gens qui aujourd'hui sont en rupture, n'ont plus de lien parce que les évolutions sociologiques font qu'on s'est éloigné progressivement de la religion ou qu'on n'y a jamais cru. Ou que, voilà. Mais on trouve sur RCF, et ces gens-là nous le disent, une radio qui propose du sens, qui propose même de la spiritualité auquel ils ne sont pas forcément hermétiques. Toute la question est de savoir comment on amène toutes ces choses à l'antenne. Et là, on vit une véritable tension que Monseigneur a très bien expliqué hier soir. Il y a d'abord une tension de temps, dans ce temps médiatique qui est extrêmement exigeant, parce que si on veut exister médiatiquement, il faut s'approprier les canons médiatiques actuels, donc c'est une véritable tension, et le temps de l'Église, et même le temps de la foi, qui est bien souvent un temps beaucoup plus long. Bien sûr qu'il y a des conversions fulgurantes et des moments où tout bascule sur une seconde, et puis il y a aussi des cheminements de personnes qui sont beaucoup plus longs, qui peuvent prendre des semaines, des mois, des années. Donc il faut vivre cette tension entre la réalité d'un média, notamment radiophonique, qui est assez réactif, et puis ce temps de l'Église, ce temps de la foi, ce temps du Christ, qui est parfois beaucoup plus long que celui qu'on peut imaginer. Ça, c'est une première tension. La deuxième tension, elle est liée effectivement au public qui nous suit, 50% des gens qui sont non-croyants, qui n'ont plus de contact avec l'Église, ça veut dire aussi 50% de croyants et des gens qui sont en contact avec l'Église. Donc comment faire pour rejoindre tous les gens, toutes les personnes qui nous écoutent? Je crois aujourd'hui que la radio, qui est diffusée dans des endroits où il y a peu d'autres radios, où il n'y a plus beaucoup, parfois même, de lieux d'engagement, ce sont des personnes et des chrétiens qui ont besoin d'être soutenus dans leur foi. Donc il faut leur amener de la formation, de la spiritualité, bien évidemment des prières, mais aussi de réflexions bibliques, etc. Et puis, il faut aussi tenir compte de ce public qui, je ne vais pas dire qu'il n'en a rien à faire, parce que les gens qui viennent nous écouter et qui sont non-croyants écoutent aussi les émissions spirituelles, écoutent aussi les émissions bibliques, mais ils ont besoin d'entendre de la musique, ils ont besoin d'entendre des émissions liées à la société, ils ont besoin d'entendre des informations, etc. Donc il faut vivre aussi toute cette tension entre ces différents publics. La radio est un média particulièrement... C'est le média de l'intériorité, si vous voulez. On entend une voix, on entend une présence, on accompagne des gens, il n'y a pas de barrière. Je ne dis pas que c'est le meilleur des médias, attention, hein, je dis que c'est le média de l'intériorité par excellence. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de barrière, on n'est pas obligé d'acheter quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose dans les mains, on n'est pas obligé de se mettre devant un écran et d'attendre. Ça peut être dans la voiture, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans tous les lieux qui sont nos lieux de vie aujourd'hui. Et nous, notre souci, c'est de se dire que quel que soit l'endroit où les gens écoutent la radio, ils puissent être rejoints par la parole qui est celle, non pas que nous délivrons, mais que nous essayons de porter et de proposer aux gens qui nous écoutent. Donc ce média radio, vous savez, il y a eu des modes, hein, on a dit que la radio allait tuer la presse écrite, puis ensuite que la télé allait tuer la radio, puis ensuite qu'Internet allait tuer les médias traditionnels, et puis que encore les développements futurs vont déjà faire qu'Internet sera dépassé. C'est absolument pas vrai. On s'aperçoit que tous ces médias existent aujourd'hui, avec des difficultés, avec des tensions, etc., mais restent véritablement chacun à sa place, un média intéressant. Et bien la radio, à mon avis, fait partie de ce média qui ne disparaîtra jamais parce que c'est celui de l'intériorité. On a parfois des témoignages de gens qui disent « Moi, dans ma famille, on n'est pas chrétien, mais le soir, dans ma chambre, je peux écouter RCF parce que là, je suis... quelque part, je suis dégagé de toutes les contraintes. On ne me verra pas avec un journal catho, on ne me verra pas en train de regarder une télé catho, etc. Je suis avec moi-même et vraiment, ce que vous faites m'apporte beaucoup. » Alors bien sûr, nous avons des réflexions pour tout ce qui concerne la première annonce, puisque la radio étant un média d'évangélisation, notre question est de savoir comment rejoindre les gens qui viennent nous écouter. J'ai été très touché par la méditation de Mgr Quatennens hier, notamment sur le texte des pèlerins d'Emmaüs, parce que je crois, et vous y faisiez aussi référence, parce que je crois qu'il y a là une ligne de conduite extrêmement importante pour nous, qui est de dire finalement notre boulot, c'est de faire en sorte que les gens puissent se mettre à cheminer avec le Christ. On n'a pas d'autre chose à faire, on n'a rien d'autre à leur amener que de favoriser cette rencontre qu'un auditeur peut avoir et de se mettre à cheminer avec le Christ. Le reste ne nous appartient pas. Je ne crois pas que nous ayons un message particulier, je ne crois pas que nous ayons quelque chose à apprendre aux gens. Alors, bien sûr, ça se fait, mais la véritable mission de la radio aujourd'hui, c'est de se dire, quelqu'un qui va écouter RCF, est-ce que ce qu'on lui propose va lui permettre de se mettre en route et de se dire, tiens, je chemine avec quelqu'un, et peut-être de reconnaître que ce quelqu'un est le Christ, et peut-être d'aller plus loin. Il faut qu'on réfléchisse en termes de programmation à être toujours dans cette ligne-là, de se dire... Il faut qu'on favorise la rencontre entre nos auditeurs non contemporains et le Christ. Alors bien sûr, ça passe par des débats très compliqués pour savoir qu'est-ce qu'il faut programmer, à quelle heure, de quelle façon, pour quel public. Il y a toute une part de réflexion qui n'est pas simple à mener parce que les attentes sont multiples, parce que les besoins sont multiples, parce que l'Église attend aussi parfois des choses de nous qui sont, je ne vais pas dire contradictoires, mais qui sont elles aussi multiples. Il faut accepter cette complexité, cette multiplicité. Ce qu'il faut, c'est s'engager, être intelligent, travailler, et le plus possible, faire le produit radio qui nous semble le mieux, en se disant que finalement, le temps de la rencontre des auditeurs et du Christ ne nous appartient pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment favoriser cette rencontre. Je voudrais citer trois types de témoignages que nous avons reçus, qui illustrent assez bien, finalement... je pense à la fois la multiplicité et la diversité des gens qui nous écoutent. Lors de la dernière semaine sainte, nous étions installés à Chartres et on a fait toute une programmation à la fois liturgique autour des jours saints, du jeudi au dimanche saint, et puis on a enchaîné sur le festival de Pâques à Chartres, que vous connaissez sans doute, qui rassemble beaucoup de musiciens chrétiens. Et on a terminé par la diffusion de la messe des artistes le lundi à 16h. Voilà. Et le mardi matin, quand je suis retourné au bureau, j'avais un mail d'un jeune qui disait « Hier à 16h30, j'étais dans ma voiture, j'ai entendu la messe des artistes du festival de Pâques, j'étais pas chrétien, mais je peux vous dire que j'ai passé un super moment » et c'était signé Jérémy, 21 ans. Un autre témoignage qu'on reçoit et qui est aussi assez fréquent, c'est « Voilà, moi je suis maintenant vieux, j'ai du mal à voir, je ne peux plus lire le journal, je ne peux plus regarder la télé. Heureusement qu'RCF est là parce que c'est une radio qui m'accompagne et qui me fait du bien. » Et puis un autre témoignage qui est celui d'une dame qui s'appelle Catherine, je crois, et qui nous a dit « J'ai découvert RCF par hasard, je n'étais pas du tout chrétienne, j'étais athée, j'ai commencé à vous écouter régulièrement, j'ai noué un chemin avec l'Église, aujourd'hui je suis baptisée, je suis très heureuse. » Pour nous, ce genre de témoignage, ce qui compte, ce n'est pas les 800 000 auditeurs, ce n'est pas les 1 800 000 par semaine. Ce qui est vraiment important dans notre mission, c'est de se dire que parmi ces gens qui nous écoutent, il y en a 1, 2, 3, peut-être plus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écrivent pas non plus, qui vont se mettre en route et qui vont faire ce chemin. C'est vraiment comme ça que l'on considère notre mission. Alors, l'exigence, c'est de plonger dans la culture contemporaine, de ne pas en avoir peur, de ne pas trahir son identité, d'être très clair sur qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et on s'aperçoit quand on arrive avec... ce qui est notre petite intelligence à gérer tous ces paramètres, eh bien ça produit du fruit. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais quasiment conclure, avant que la musique n'arrive, pour me dire attention, c'est bientôt la fin. Et puis je pense que peut-être dans la table ronde, on pourra rediscuter de tel ou tel point. En vous citant un extrait d'une homélie qu'a prononcé le cardinal Billet, qui était archevêque de Lyon et président de la Conférence des évêques de France, lorsqu'il a rencontré en 1999 tous les acteurs de RCF. Et il a dit dans son homélie quelque chose qui rejoint exactement cette méditation de Mgr Quatennens sur les pèlerins d'Emmaüs hier, et qui est vraiment pour nous quelque chose de très important. Il a terminé son sermon de cette façon. Il nous faut aussi situer et relativiser la mission qui est la nôtre. Nous avons raison de vouloir être plus performants possible au plan des techniques radiophoniques. Nous avons raison de vouloir faire progresser la qualité des programmes. Nous avons raison de vouloir rejoindre davantage d'auditeurs et de chercher les financements nécessaires. Soyez tous, salariés et bénévoles, remerciés pour ce travail, effectué parfois dans des conditions difficiles. En même temps, nous savons bien que nous ne pouvons réduire le mystère de l'évangélisation au problème de la communication. Lorsque nous aurons tout fait pour bien communiquer, nous serons toujours en deçà de ce lieu mystérieux où l'Esprit du Seigneur ne cesse de dialoguer avec chacun et de solliciter sa liberté. Il y a là un seuil que nous ne pouvons pas franchir, mais cette impossibilité même est la source de confiance et de paix, car nous savons que la fécondité ultime de notre travail ne dépend pas de nous, elle nous est donnée. Et ben voilà, c'est une parole qui nous a beaucoup servi et qui nous guide encore dans ce travail qu'on essaye de faire en radio. Merci.
Hubert, c'est à toi.
Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis venu avec des cadeaux. Je pensais que les éditions des Béatitudes offriraient un livre à chacun. Du coup, je suis arrivé avec l'invisible pour chacun. Alors, ça vous servira peut-être cet après-midi pour l'évangélisation de rue. Donc, moi, j'ai donc Hubert de Torcy. Voilà, ça fait 5 ans que j'ai la chance de travailler directement pour la mission. D'abord aux éditions de l'Emmanuel et Aïdé Vivant, et puis depuis maintenant 4-5 mois pour l'Invisible. Alors, comment l'aventure de l'Invisible est née? Je pense que d'abord, elle est née d'une question qui vous habite tous certainement, c'est comment rejoindre ce grand public qui paraît totalement hermétique au message de l'Évangile. Quand on est éditeur, je pense que Claude et Cathy ne démentiraient pas, on a parfois cette grande frustration de faire des livres qui pourraient toucher vraiment un public très large, qui pourraient vraiment toucher le cœur des gens, qui pourraient répondre à leur soif de connaître Dieu. Et le problème dans ce beau pays de France où on nous explique à longueur de journée que la question religieuse est du domaine du privé, eh bien, personne ou très peu de gens ont accès à ces merveilles. À tel point que que le monde chrétien, le monde catholique, a recréé une sorte d'univers parallèle au monde réel. Quand aujourd'hui on sort un bon livre, un livre qui peut, grand public, pour faire parler de ce livre, on va faire appel à des médias chrétiens, à des radios chrétiennes, des télévisions chrétiennes, de la presse chrétienne. On va se vendre et se distribuer dans des librairies religieuses. Et d'une certaine manière, on se coupe de toute une partie du public pour qui on a écrit ces livres, mais qui jamais n'en entendront parler. Et puis si jamais par hasard, parce que justement ils vont écouter RCF, ils vont vouloir acheter ce livre, ils ne le trouveront pas dans leur librairie habituelle. Voilà. Donc ça, c'est une de mes grandes frustrations de mes 5 années à la tête des éditions d'Emmanuel. Alors on essaie de trouver des solutions, mais c'est pas simple. Et pourtant, tout ce public dont je parle, c'est quand même la majorité de nos concitoyens. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 64% de Français qui se disent encore catholiques, mais sur ces 64%, vous en avez peut-être 5% qui vont régulièrement à l'église. Tous les autres sont un peu en rupture de banc. Alors, et pourtant, donc, chacun de nos concitoyens, ça c'est notre conviction, a le droit à cette information qu'il est aimé par Dieu et que Dieu est venu pour le sauver. Alors comment lui donner cette information? Je dis que c'est vraiment une information à laquelle il a droit. Et quand il y a quelques années, il nous arrivait de faire des évangélisations de rue, notamment à Paris, je me rappelle en avoir fait avec Brunor, le dessinateur. Là. Alors on se mettait tous en rond, là, on chantait la louange dans la rue, il y avait quelques personnes qui s'approchaient en pensant que c'était un spectacle. Et puis je me rappelle de Brunor qui prenait la parole et qui dit, chers amis, je n'ai rien à vous vendre, je n'ai rien à vous proposer, La seule chose que j'ai à vous donner, c'est une information. Et cette information, à laquelle vous avez le droit, c'est que Dieu est vivant et qu'il vous aime. Voilà. Ben, rien que cette information-là, les gens n'y ont pas accès. Et aussi, notre conviction, c'est que chacun a été fait par Dieu, pour Dieu, et que donc, il y a ce désir de Dieu dans le cœur de chacun. Voilà. Alors, comment les rejoindre ? Comment les rejoindre dans ce monde cloisonné, hein, vous avez d'un côté l'Église avec tout son réseau, et puis de l'autre le monde profane qui vit sa vie sans Dieu. Alors il y a différents moyens, il y a différents médias. Je pense que le cinéma, par exemple, c'est un très bon média. Il y a la télévision, il y a la radio. Jean-François nous en a parlé. Mais il y a des médias qui sont plus ou moins accessibles, ne serait-ce que financièrement. Et c'est là que on a eu cette idée du gratuit. Je dis on parce que on a travaillé sur ce projet à deux avec Jean-Baptiste Fourtanet, qui est le fondateur du Festival de Pâques à Chartres. On a eu l'idée de ce gratuit, sachant que l'idée du gratuit ne date pas d'hier. Hein, c'est une idée qui a été inventée par les catholiques il y a 60 ans, hein, dans le cadre de la presse paroissiale. Les premiers gratuits, ils sont nés avec la presse paroissiale il y a 60 ans. Et en revanche, ce concept a été totalement modernisé, revu, corrigé par les 20 minutes, métro, direct matin, direct soir, qui ont énormément démocratisé l'outil. C'est-à-dire c'est vraiment une sorte de journal dont qu'on a la liberté de prendre ou de ne pas prendre, et dont on se dit finalement c'est très objectif, l'information qui est là-dedans, c'est neutre. Donc ça nous plaisait bien comme idée, comme concept. Et voilà comment est née donc l'idée de l'invisible, avec trois objectifs principaux. Je vais les décrire, puis après ça je vais rentrer dans chacun de ces objectifs un peu plus avant. La première chose, le premier objectif de l'invisible, c'est d'être une porte d'entrée dans la foi, dans l'Église et dans la culture chrétienne pour tous nos concitoyens qui n'ont pas accès aujourd'hui à la foi. Donc une porte d'entrée, premier objectif. Deuxième objectif, on l'a conçu comme un outil. C'est pas le moindre des objectifs, le deuxième objectif. Je pense qu'il est presque plus important que le premier, paradoxalement. Mais c'est un outil pour permettre aux catholiques pratiquants de devenir missionnaire. Ça, c'est un objectif très important, je le développerai tout à l'heure. Le troisième objectif, c'est que on l'a aussi pensé comme un outil de communication externe pour des paroisses, des diocèses, des événements qui voudraient localement pouvoir communiquer largement sur leurs activités locales. Voilà. Alors, premier objectif, donc porte d'entrée dans la foi, dans l'Église et dans la culture chrétienne. Ça fait donc de nombreux mois qu'on réfléchit à ce concept et à la manière de parler donc à ce public qui, je vous le rappelle, est indifférent dans le meilleur des cas quand il n'est pas hostile à la foi et au bon Dieu. Au fil du temps et des réflexions, il y a plusieurs, petits éléments que je voudrais partager avec vous, des écueils qui nous sont apparus et qui font que l'invisible est aujourd'hui à la tête qu'il a. La première chose, c'est que ce qui nous a paru assez vite, c'est que pour pouvoir toucher le plus grand nombre, il fallait absolument que l'invisible ne soit pas l'expression d'une chapelle au sein de l'Église, mais qu'il puisse en quelque sorte rassembler le plus largement possible sous son étendard toutes les expressions qui peuvent exister au sein de l'Église. Vous savez combien c'est compliqué l'Église, hein. Il y en a de tous les côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc il nous a apparu que si on voulait que l'invisible puisse toucher largement un large public, et on peut vraiment rêver hein, que demain l'invisible soit distribué à 1 million, 2 millions d'exemplaires, il nous fallait rassembler le plus largement possible. C'est pour ça que dès le premier numéro, on a noué un certain nombre de partenariats éditoriaux avec La Vie notamment, avec Magnificat et avec Il est vivant. La deuxième écueil qu'il fallait éviter, c'était de vouloir être exhaustif. Ce qu'il nous a apparu, c'est que il y avait d'abord en interne à l'Église un certain nombre de sujets qui fâchaient et qui étaient plutôt l'expression de nos divisions plutôt que de ce qui nous rassemble, et que ces sujets-là n'avaient pas nécessité n'avaient pas besoin de se retrouver dans l'invisible. De garder en quelque sorte la modestie de la première annonce, la modestie d'un outil qui ne fait que être une porte d'entrée, un apéritif pour ceux qui sont loin de l'Église. Hein, et du coup, et ça, ça a été l'objet de longues discussions, parce que quand on fait un partenariat avec des gens aussi différents que Magnificat, Il est vivant ou La Vie, eh bien, on n'a pas forcément la même vision des choses sur tout. Et donc, il fallait que l'on se retrouve sur un noyau commun. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi, et je pense que c'est une bonne chose pour le journal, fait ce choix de ne pas parler de choses qui pourraient fâcher inutilement des chrétiens. Vous voyez, c'est-à-dire de n'aborder que des sujets qui ne fâchent pas inutilement les chrétiens. Si quelqu'un va être fâché de savoir que Jésus est l'unique sauveur, bah, tant pis pour lui, ça c'est pas inutile qu'il le sache. Vous voyez, donc là mais si jamais c'est compliqué d'expliquer pourquoi, par exemple, c'est important que les prêtres soient célibataires, voilà, je pense que typiquement c'est une question qui, un, est tellement à des milliers d'années-lumière de celui auquel on veut s'adresser, et deux, qui va être sujet de friction entre nous. Eh bien, laissons ces sujets-là pour de la presse plus spécialisée. Une fois que la personne aura franchi le cap de la porte d'entrée, elle aura tout le loisir d'approfondir les questions qui sont les siennes ou qui sont plus techniques ou plus spécifiques dans d'autres journaux, voilà, tels qu'il en existe aujourd'hui. Le troisième écueil qu'il nous fallait éviter, c'était ça c'est un écueil qui a été difficile à éviter. Pour moi, ça a été vraiment presque une conversion, cet aspect-là. C'est de vouloir se servir de l'invisible comme un outil pour rendre justice à l'Église. Hein, parce qu'on pourrait avoir cette tentation-là, enfin, surtout à travers les événements qui sont ceux qui jalonnent la vie médiatique ces derniers temps, de vouloir apporter, de rendre justice hein, à notre mère, l'Église, et de vouloir justifier. Voilà. Là encore, se dire que c'est la meilleure manière de ne pas rejoindre justement le spectateur. Alors, c'est pas crier avec le loup, bien entendu, mais de parler des points positifs, d'apporter une bonne nouvelle, et non pas d'être sur la défensive par rapport à ce que le monde a comme vision de l'Église. L'autre écueil, c'est de vouloir trop donner. Hein. Ça rejoint un petit peu le fait de vouloir être exhaustif. C'est qu'on s'adresse à des gens, et ça, c'est ce dont on se rend compte, parce qu'on teste régulièrement, on a la chance de pouvoir régulièrement tester auprès de personnes qui sont athées, qui sont agnostiques, ou qui se déclarent catholiques, mais ne vont jamais à l'Église, de pouvoir tester le produit, hein, de les faire lire, de voir qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les gêne. Et ça, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, se rendre compte que, en fait, toute nourriture trop répétée devient vite indigeste pour eux. Hein. Il y a une parole de Saint Paul où on dit un nourrisson, on lui donne du lait, on lui donne pas de la viande tout de suite. Donc voilà, c'est toujours un peu cette question de la modestie du propos de première annonce. Voilà pour la porte d'entrée. Donc, c'est vraiment qu'une simple porte d'entrée dans la foi, dans l'Église et dans la culture chrétienne. Deuxième objectif que j'évoquais, c'était donc un outil missionnaire, donc, qui permette aux chrétiens de se mettre en mission. Je pense que ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Parce que en faisant nos focus, nos tests là, auprès des différents publics, on se rend bien compte que le catholique pratiquant, pour le coup, engagé, qui a la foi, est extrêmement mal à l'aise par rapport à la question de la mission. C'est-à-dire qu'il trouve ça très bien, la mission, mais c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Alors j'en veux pour preuve que quand on les interrogeait là, dans le cadre de ces focus, la plupart disaient « Mais moi, vous savez, personne au bureau ne sait que je suis chrétien. Ou je suis abonné à Famille Chrétienne ou à Pèlerin, mais jamais ça me viendrait l'idée de le lire dans le métro parce que j'aurais peur du regard des autres sur moi. » Donc on est aujourd'hui un peu dans une situation comme celle-là. Enfin, ceux qui sont curés parmi vous se rendent sans doute bien compte de cette inertie du peuple chrétien à l'idée d'afficher sa foi, à l'idée d'annoncer. C'est quelque chose qui fait peur. Moi, je connais des gens qui sont vraiment des bons chrétiens, qui prient beaucoup, mais à l'idée de se retrouver dans la rue et d'afficher sa foi, ils se sentent totalement démunis. De ce point de vue-là, l'invisible est un outil très simple. C'est-à-dire que ça peut permettre cette mise en bouche de la mission. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, hein, de distribuer l'invisible dans la rue. C'est on ne peut plus simple. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi simple que de distribuer 20 minutes ou direct matin dans la rue. Donc il n'y a pas besoin d'être un super missionnaire bien formé, et on a vu sur les paroisses qui ont pu le prendre et puis qui l'ont diffusé à 5000 exemplaires autour d'elles dans les métros, dans les gares, etc. Quand on voit la tête de ces paroissiens qui ont fait le choix de distribuer, ben, c'est là où je me dis que le pari est gagné. C'est qu'on voit des bonnes têtes de chrétiens, mais très ordinaires, vous voyez, c'est pas des gars dont vous vous dites ils viendront au forum communion évangélisation, mais Mais ils le font. Et puis ils se rendent compte qu'ils ne sont pas agressés. Vous voyez que personne, qu'en face, les gens prennent très volontiers le journal. Et que voilà. Donc c'est le deuxième objectif. Donc cette aide concrète pour briser la glace et peut-être donner le goût de la mission à ces chrétiens pratiquants, mais qui n'ont jamais goûté au feu de l'évangélisation. Et puis le troisième objectif, je passe rapidement, mais c'est que c'est un outil de communication externe pour l'Église aussi, c'est comme ça qu'on l'a pensé. C'est-à-dire que vous avez 24 pages nationales et qu'à l'intérieur des 24 pages, il y a la possibilité pour la paroisse, le mouvement. Vous voyez, par exemple, l'année prochaine, je suis sûr que au Forum Communion et Évangélisation, il y aura 4 pages centrales pour envoyer les Avignonnais qui vont recevoir en masse le journal sur les différentes activités locales à Avignon qui vont se dérouler dans les mois qui viennent pour leur donner... C'est bien d'avoir annoncé la bonne nouvelle, mais ensuite, il faut que les personnes puissent retrouver l'Église locale, là où elle est, et puis rencontrer des visages concrets de l'Église, des chrétiens avec qui la discussion va pouvoir se poursuivre. Voilà. Merci de votre attention.
Pour introduire le débat, j'ai quelques réflexions que m'inspirent ces trois interventions. D'abord, le rapport entre ces médias et puis la communauté. Parmi les intervenants, un membre de la communauté d'Emmanuel, la communauté des Béatitudes, je ne sais pas si vous appartenez à une communauté, peu importe, mais en tout cas, il y a un certain nombre de créativités dans l'ordre d'outils missionnaires qui sont le fruit de la prière et de ce souci missionnaire porté par une communauté. Alors ce serait peut-être intéressant de vous entendre, en tout cas pour ceux qui vous pourrez dire aussi quelque chose, autour de ce rapport qui me semble important en voyant un certain nombre de supports nouveaux dans l'ordre de l'évangélisation, d'initiatives. Je vois qu'elles naissent à l'intérieur de propositions, de projets communautaires, avec donc un modèle économique aussi qui fait que ça doit être efficace et rentable, mais porté par un cadre qui est celui de tout ce que peut signifier une communauté, de vie relationnelle, de rapport au monde. La deuxième réflexion qui me vient, c'est dans les échanges que vous avez faits, il y a différents publics. Lorsqu'on parle, il y a le public catho et puis il y a le public qui n'est pas catho. En réalité, dans le public catho, il y a différents publics, il y a les pratiquants, les saisonniers... Et puis, dans le public qui n'est pas catho, il y a ceux qui viennent quelques fois à l'église, mais qui n'ont pas tellement de culture, même si certains cathos n'en ont pas du tout non plus, au niveau religieux, ou l'ont perdu. Et puis, il y a des gens qui sont incapables de lire des livres comme « La joie d'être prêtre » ou même « L'invisible », parce que c'est des mots qui ne leur disent plus rien. Qu'est-ce que c'est, la messe, l'Eucharistie, etc. Donc, comment, et c'est là une question que je pose... qui se voit un peu iconoclaste, comment est prise en compte cette diversité de public qui nécessite un langage particulier, une manière d'aborder les personnes qui est adaptée à la situation de chacun. Et qu'on ne peut pas simplement réduire le catho et le non-catho. C'est beaucoup plus complexe. Voilà. Alors, est-ce que peut-être sur ces deux thématiques, le rapport à la communauté et puis la diversité des publics auxquels s'adresse la communication de l'Église, vous pourriez apporter des lumières ou des réflexions utiles pour tous.
Moi, je veux bien démarrer. Sur la question du vocabulaire, par exemple, nous, ce qu'on remarque sur l'invisible, hein, c'est qu'on essaie d'avoir ce souci d'adopter... Vous n'entendez pas ? Oh mince, pardon. Là, vous entendez ? C'est bon ? Donc, par rapport à ce souci d'un vocabulaire qui soit audible, intelligible pour tout un chacun... C'est un vrai effort, ça c'est sûr, hein, d'éviter un langage trop jargonnant. Je ne dis pas qu'on est arrivé du tout, hein, je pense qu'on peut encore progresser largement. Cela étant, ne sous-estimons pas non plus la culture des gens qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on teste. Là, récemment, donc, on a fait un de ces tests avec, je vous dis, une population athée, agnostique ou catho, pas du tout pratiquant. Et on leur a posé la question, est-ce qu'il y a dans la lecture des trois premiers numéros des choses, des mots, des expressions que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire qui sont... Et il n'y a eu aucune remarque, je veux dire, personne n'a trouvé de choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc les gens ont quand même, peut-être grâce d'ailleurs à des genres comme Da Vinci Code ou Le Nom de la Rose, ils ont un vocabulaire quand même un peu chrétien. On est quand même dans des pays de culture, l'air de rien, chrétienne. Bon.
Ensuite, ce dont je me rends compte aussi, c'est qu'en s'adressant à celui qui est loin, on touche celui qui est près. C'est-à-dire que nous, on voit sur l'invisible, donc on a ce souci de s'adresser à notre cible, c'est pas le catho pratiquant, c'est celui qui est vraiment en dehors du bocal. Eh bien, en faisant cela, on suscite un enthousiasme qu'on ne soupçonnait pas au début de la part des cathos pratiquants. Et aujourd'hui, on est par exemple très étonné de voir que, alors que c'est un gratuit, on donne la possibilité aux gens de s'abonner. On a deux fois plus d'abonnements que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est-à-dire qu'il y a les abonnements, c'est des cathos pratiquants qui sont enthousiastes, qui l'achètent, qui le prennent pour eux et pour le distribuer autour d'eux. Hein. Voilà. Et puis ensuite, par rapport à la question sur les communautés, alors moi, je rends hommage à Jean-Baptiste Fourtanet, avec qui j'ai travaillé sur ce projet, c'est lui qui a eu l'intuition initiale de ce projet-là, donc il ne fait pas partie de la communauté d'Emmanuel. Ce qui est sûr, c'est que si l'invisible aujourd'hui existe, c'est aussi parce que, avec Jean-Baptiste, on l'a proposé au conseil de la communauté d'Emmanuel, la communauté a accepté de soutenir le projet, y compris financièrement dans le démarrage du projet. Aujourd'hui, pour des raisons évidentes de capital, c'est un projet qui s'ouvre à de nouveaux actionnaires et à d'autres visages de l'Église. Mais donc heureusement que la communauté a accepté, sur l'idée, parce qu'il fallait démarrer. Quand on voit le journal, c'est plus facile de dire c'est bien, on a envie d'y participer. Mais au début, quand c'est juste quelques idées sur un papier, c'était pas évident. Donc la communauté a eu, on va dire, ce désir missionnaire de soutenir le projet. Et donc on s'est entouré notamment sur ce projet-là, d'un tout un comité d'orientation, dont fait partie Jean-François d'ailleurs. Et plusieurs autres personnes pour avancer et perfectionner ce projet. Voilà.
Une question, puisque tu as la parole. Comment l'invisible arrive-t-il dans les paroisses? Une paroisse d'un lieu que je n'arrive pas à identifier, mais qui n'a pas reçu le numéro, et comment se procurer les autres numéros? Quelle est la périodicité de parution?
Alors, donc c'est un mensuel, déjà, c'est un mensuel. Comment il arrive dans les paroisses? En fait, c'est le seul gratuit qui est gratuit pour le lecteur, mais payant pour le diffuseur et le distributeur. L'économie du projet repose sur trois sources, la publicité, comme tout gratuit, mais aussi sur le financement par les paroisses, les mouvements, enfin ceux qui le prennent comme un outil de communication externe. C'était le troisième point de mon exposé tout à l'heure. Hein, qui trouvent leur intérêt parce que ça va ramener éventuellement des personnes localement. Alors donc ça a un coût. Pour la paroisse. Aujourd'hui, donc, il arrive dans les paroisses parce qu'on l'envoie à toutes les paroisses de France à raison de 30 ou 40 exemplaires, mais c'est juste pour mettre en bouche le produit et pour que les personnes voient ce que c'est et éventuellement envie de l'acheter. Alors, donc il arrive dans les paroisses si les paroisses acceptent de l'acheter, en quelque sorte, pour le diffuser très largement autour d'elles, sachant qu'il y a plein de formules d'abonnement avec les pages locales, avec sans les pages locales, avec des tarifs dégressifs par quantité. Enfin, il y a plein de possibilités d'acquisition. Le coût, là, puisque j'ai une question sur la question du coût, est-ce que c'est pas un obstacle pour certaines paroisses? C'est sûr que le coût est un obstacle. En même temps, dès le début, on voulait qu'il y ait un coût, même si jamais il n'est pas, c'est pas un coût qui représente les vrais coûts qu'il y a derrière. Hein. Il est en deçà de ce que ça coûte, parce qu'on espère que la publicité viendra petit à petit aider à financer le journal. Mais aujourd'hui, je dirais que les paroisses ont un budget généralement alloué à l'évangélisation qu'elles consacrent souvent à leur presse paroissiale. De ce point de vue-là, l'invisible est une sorte de proposition alternative de presse paroissiale qui serait, on va dire, peut-être plus orientée vers l'extérieur que vers la communication catho pour catho. Alors donc voilà, c'est une sorte de transfert de ces budgets que parfois les paroisses ont ménagés pour un investissement pour la mission, en fait. Voilà. Mais je pense qu'ensuite, il y a des tas de manières de le financer, par de la publicité locale aussi, par un appel aux dons auprès des paroissiens. Je connais une paroisse où ils ont pris un abonnement avec 5000 exemplaires par mois, et ils demandent à chaque paroissien, chaque mois, de donner 1 euro pour ça. Alors, il y a 500 ou 700 paroissiens sur la paroisse. Ça fait 700 euros par mois. Il a de quoi tranquillement avoir un abonnement annuel intéressant.
Sur le rapport... la dimension communauté, c'est vrai que l'expérience qu'on a fait, nous, alors c'est difficile de résumer en quelques minutes 25 ans d'expérience, et j'ai oublié de dire que cette année, donc les éditions des Béatitudes, comme RCF, d'après ce que j'ai compris, fêtent leur 25e anniversaire. Donc... Oui. Ah oui, c'est plus ancien. Donc nous, oui, c'est un peu plus. Alors, c'est vrai, je crois que c'est important surtout dans notre sphère chrétienne, ce rapport entre communauté et médias, évangélisation. Ce que je remarque, c'est que c'est important qu'il y ait ce lien, je dirais, entre la parole annoncée et la parole vécue. C'est-à-dire le fait que ce soit un groupe de personnes qui vivent déjà ce qu'ils vont annoncer, ça donne une certaine dimension d'authenticité, une certaine force au témoignage. Donc ça, je crois que c'est important pour nous. C'est aussi une responsabilité pour, je dirais, nos entreprises hein, de médias, une entreprise d'édition, de vivre ce qu'on annonce en interne. Et donc depuis, enfin pendant 20 ans pratiquement, on a fonctionné qu'avec des membres de la communauté des Béatitudes, qui ont dû apprendre, si vous voulez, à vivre ces dimensions d'une entreprise, donc de produire quelque chose, d'être organisé, d'être professionnel. Hein, il y a d'autres communautés ici qui vivent ça. Et depuis 7-8 ans, nous avons des salariés, donc qui ne sont pas des communautaires et qui parfois ne sont pas vraiment chrétiens ni même pratiquants. On a découvert aussi que c'était un lieu d'évangélisation en interne. Et c'est très intéressant, c'est très beau de voir qu'on peut justement annoncer la parole de Dieu, et c'est très touchant de pouvoir vivre cette dimension donc, d'évangélisation à l'intérieur même de ces activités. Et puis par rapport à la deuxième question, c'est vrai que moi l'expérience que je vois, c'est qu'à travers le livre, justement à travers différents types de livres, on peut vraiment toucher différents types de personnes, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a conçu la politique ou la ligne éditoriale comme assez large, sans s'enfermer dans un type de livre, mais au contraire en étant ouvert à éditer différents types de livres. Par exemple, me venait à l'idée l'importance d'être présent dans le monde de la BD. Vous savez, par exemple, il y a à Angoulême un festival de la BD international, et à l'intérieur de ce festival, il y a un festival de la BD chrétienne, et qui assure une présence de la BD chrétienne dans ce monde de la BD, si vous voulez, qui est vraiment très, très, très important à évangéliser. Donc, voilà, à travers le livre, comment on peut aussi être présent et proposer justement des BD chrétiennes. Il y a ici, justement, Yves Guézou qui en a fait. On a aussi fait des livres avec lui. On a créé ce personnage du Lapin Bleu, d'autres personnages, Yaël, à travers des dessinateurs qui justement, se situent à la limite de la foi de l'annonce, et faire des livres qui puissent être lus finalement par tout le monde, si vous voulez, mais en portant un contenu, un message chrétien, et en étant présent dans ce genre de milieu. Voilà ce qui est possible à travers le livre.
Il y avait une question à laquelle vous pourriez répondre, c'est par rapport aux musulmans. Quelle communication, on peut prendre le média du livre par exemple, faire auprès des musulmans, comment présenter, je lis la question, un Dieu qui soit amour, le Christ, vrai Dieu, vrai homme, la communion ecclésiale auprès de personnes qui sont de culture musulmane. Est-ce qu'il y a des livres qui sont spécialisés pour former des chrétiens à être missionnaires auprès de ces gens-là?
Alors c'est gentil de me poser la question, mais c'est une question très difficile et très délicate. Parce que là aussi, finalement, comme le disait Hubert, c'est un sujet pas facile, et ça peut être un sujet qui fâche, même dans l'Église. Donc nous, on a fait déjà un livre ou deux. Mais enfin, on a édité il y a quelques mois un livre justement qui s'appelle « Mon ami musulmane », qui est un livre pour, on est dans un lycée, qui est un livre pour, sur la question comment vivre la question du dialogue islamo-chrétien au sein même du collège ou du lycée. Et c'est l'histoire de deux petites filles qui sont amies, qui sont dans la même classe et qui vont témoigner l'une à l'autre de leur foi. Voilà. Donc on a fait ce livre en lien justement avec Michel Sentier, hein, qui est l'évêque responsable de toutes ces questions interreligieuses en France, en lien avec pas mal de gens. Mais bon, c'est un axe, il pourrait y en avoir d'autres, mais je trouve que c'est... Puis on a pris le parti de le mettre dans la ligne un peu Benoît XVI, c'est-à-dire d'avoir des relations de respect mutuel entre musulmans et entre catholiques et musulmans, mais en même temps, c'est un livre qui est fait pour montrer à des musulmans qu'il existe des familles chrétienne, où par exemple on prie à table, où la petite fille fait sa prière le soir. C'est-à-dire que ça leur fait découvrir le monde chrétien tel qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas eu du tout idée que ça puisse encore exister en France. Et c'est aussi un livre qui fait connaître à des jeunes Français chrétiens, catholiques, ce qu'est l'islam, avec des notions très, très simples, mais sans relativisme, en respectant vraiment la spécificité de la foi chrétienne. Par exemple, on a beaucoup insisté sur, ça a été une grande question, parce qu'on nous a dit, pour les enfants, qu'est-ce qui, à la fin, si on leur fait un livre comme ça, ils se disent, mais quelle est la bonne religion, finalement ? Donc, toutes ces questions-là sont assez difficiles, et il y a pas mal de gens qui réfléchissent, mais ce n'est pas simple. Après, il peut y avoir des livres plus d'annonces. On est en train de travailler sur un livre, justement, plus critique par rapport à l'islam, pour essayer de faire, dans une perspective plus de recherche historique, voir comment l'islam est né, ce qu'il est vraiment. Mais ça, c'est un autre type de livre. Donc ça dépend des auteurs, ça dépend aussi des projets éditoriaux.
Voilà, alors je vais laisser la parole maintenant au troisième intervenant, Jean-François Bodin, pour répondre aux questions. Et puis, j'ai une batterie de questions qui me viennent, il faudrait répondre très rapidement. Et je le ferai aussi parce que sur l'invisible, il y a beaucoup d'interrogations.
Merci. Je vais d'abord répondre sur la question des communautés, peut-être aussi le problème de langage. Sur la question d'être porté par une communauté, ça me semble effectivement très important. À titre personnel, donc j'ai été engagé pendant des années dans la communauté du Chemin Neuf. À la fin des années 80, je faisais partie d'un groupe de musique qui s'appelait Initial. On a fait aussi un certain nombre avec ma femme, on est parti vivre en Nouvelle-Calédonie au service de couple pour des sessions Cana. Et tout ce travail était porté évidemment par la prière de la communauté. Aujourd'hui, je ne fais plus partie de la communauté du Chemin Neuf, mais RCF est porté par la prière de communauté. Il y a beaucoup de monastères, de religieux, de religieuses qui prient pour nous et qui s'engagent dans la prière pour la mission de RCF. Et je reste persuadé que c'est cette prière-là, y compris des particuliers qui s'engagent, c'est cette prière-là qui féconde tout le travail. Bien sûr, encore une fois, il y a notre intelligence, il y a notre investissement, mais je crois que sans ce soutien de la prière de la communauté chrétienne, quelle qu'elle soit diocésaine, que ce soit des monastères, etc., est capitale dans la mission qui est la nôtre. Donc sans ce lien de prière, eh bien, je crois qu'effectivement, on ne peut pas arriver finalement au but de mission qu'on essaye d'atteindre. Donc il n'y a pas le soutien d'une communauté, mais il y a le soutien de la communauté chrétienne, de certains monastères, et qui est absolument capital. Sur la question du langage, ça c'est une question effectivement très très difficile et extrêmement importante. C'est-à-dire que Monseigneur Rey l'expliquait d'ailleurs très bien hier soir, on est dans un monde où la culture chrétienne a tendance quand même à être moins en avant qu'elle ne l'a été, même si je suis aussi d'accord avec Hubert en disant qu'on baigne dans un fond qui fait que tout le monde n'a pas complètement oublié quand même ce qu'étaient les chrétiens. Mais c'est vrai que parfois on se pose des questions toutes bêtes en radio. Quand on parle d'un diocèse, bon, bah, vous qui êtes là, vous savez à peu près ce que c'est, mais pour quelqu'un qui n'est pas au courant de l'Église, c'est quoi un diocèse ? C'est quoi le presbytérat ? C'est quoi le catéchuménat ? Alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne le temps d'expliquer chacun de ces mots, etc. ? Mais ça prend aussi beaucoup de temps et c'est compliqué. Voilà. Moi, j'ai été frappé par... RCF est membre de la Conférence européenne des radios chrétiennes. Donc, on se réunit une fois par an avec des radios de toute l'Europe. Voilà. Et il y a, en 2000 et quelques, on a vu Mgr Bocardo qui était venu nous parler. Et il nous a dit très crûment, ben voilà, l'Église produit un certain nombre de documents extrêmement importants théologiquement, comme les encycliques, il y a des exhortations apostoliques, un tas de choses. À vous, les médias, de les faire connaître. En clair, l'Église institution parle un langage extrêmement précis et codé, qu'on comprend parce qu'elle a des choses extrêmement précises à expliquer. Mais on a compris, nous, Église institution, que ces messages ne passaient plus dans le grand public, à vous de les faire passer. Eh bien, bonjour. Parce que nous ne sommes pas des théologiens, c'est pas en essayant de trouver d'autres mots qu'on va pouvoir expliquer aussi finement ce que l'Église veut dire, et c'est un travail extrêmement compliqué. Donc je crois que ce travail du langage devrait être une préoccupation portée par l'ensemble des acteurs de la vie et de la mission. Parce que si on veut rejoindre les gens de notre temps, bien sûr qu'il y a besoin de textes fondamentaux, mais peut-être qu'à côté de ces textes fondamentaux, il faut aussi arriver à produire des textes qui d'emblée vont pouvoir rejoindre un public plus large. Nous, médias, on essaye de faire le maximum, je vous le promets, pour le faire, mais c'est vraiment pas simple de se substituer parfois à tout un langage qu'il est difficile de comprendre.
Merci. Quelques questions flash. Et pour RCF, que j'aime beaucoup, entre guillemets, dit le questionnaire, c'est le questionnaire. Plusieurs fois, j'ai pu entendre un discours ambigu, tiède, sur la vie, la défense de la vie. Encore ce matin, 7h43, Jean-François Picard, deuxième cause de mortalité en France, maladie cardiovasculaire après le cancer. Bon. Et l'avortement. La Déclaration des droits de l'enfant elle-même reconnaît l'enfant avant la naissance.
Vous voulez que je réponde flash ? Eh bien, ça fait référence tout à l'heure à ce que je disais sur le temps court et le temps long, y compris dans l'exercice du métier. Il y a le temps de l'information. On ne peut pas, à chaque information, malheureusement, développer, approfondir. Il y a le temps de l'information, qui est pour dire ce que vit le monde et la manière dont il vit. Et puis, on essaye de faire des émissions plus longues, mais à d'autres moments de la journée ou à d'autres moments dans le temps qui permettent d'approfondir les choses pour ceux qui le veulent. On ne peut pas approfondir tout en permanence de la même façon, et c'est une difficulté de notre métier, je le dis très clairement aujourd'hui, parce que par rapport à l'attente des gens, parfois ils ont l'impression que du coup on zappe un certain nombre de questions. C'est pas vrai, simplement on les développe d'une façon ou d'une autre. Petit point, je vais essayer de faire flash, mais petit point extrêmement important, c'est que souvent, sur cette question du langage, les non-croyants ou les gens loin de l'Église sont beaucoup moins en attente que des gens qui sont très très engagés dans l'Église. On a des retours parfois, je vais prendre un exemple très simple, au moment du référendum sur l'Europe là, et le fameux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Beaucoup de chrétiens nous ont dit en disant vous devriez dire ça parce qu'en tant que radio chrétienne, il faut être pour le traité. Puis d'autres disaient ben non, vous devriez dire ça parce qu'en tant que radio chrétienne, vous devriez être contre le traité. Bon, mais en tant que radio chrétienne, nous, on essaye simplement d'expliquer quelle est la pointe de ce texte et quelles sont les questions qui nous semblent importantes. On ne peut pas tout le temps développer, prendre une position. L'important, c'est que les gens cheminent et s'accaparent les questions pour après les travailler eux-mêmes.
Le réseau RCF dépend directement des évêques. Il n'a pas d'équivalent au niveau de la presse. Souffrez-vous de ce lien ? Est-il pesant ? Êtes-vous bridé, encouragé ou découragé ?
Tout à la fois, Monseigneur.
Je lis les questions.
Non, c'est un lien, de toute façon, c'est un lien qui est tout à fait naturel. On est au service de l'Église, donc on le vit en grande confiance, je crois, avec nos prescripteurs que sont les évêques et les diocèses. Simplement, je crois que vous le savez aussi bien que moi, l'épiscopat, dans sa totalité, est traversé aussi par des options, des opinions différentes, etc. Aujourd'hui, RCF, c'est 65 radios, 65 diocèses, 65 évêques. Donc il faut qu'on arrive à tenir compte de l'ensemble de ces sensibilités. Est-ce qu'on est bridé ? Non. Est-ce qu'on est encouragé ? Parfois oui. Est-ce qu'on est découragé ? Parfois oui. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, qu'en tant que responsable de l'information, jamais un évêque ne m'a téléphoné pour me dire « la pédophilie, faut en parler comme ça, l'avortement, faut en parler comme ça ». Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'on, même si c'est imparfait, il y a une relation de confiance qui s'est nouée dans le travail qu'on peut accomplir, et qui se fait évidemment en lien avec les évêques. Il y a un conseil d'orientation, enfin je ne vais pas développer, on est en lien très proche. Mais ce n'est pas simple parce que le monde va vite, parce que les évêques ont des tas de préoccupations, parce qu'ils vont vite aussi, me dit Monseigneur Ray, et que voilà, il faut arriver à gérer tout ça. Mais c'est pas du tout, on ne le vit pas du tout comme une tutelle imposante, bridante. Au contraire, je crois que la richesse de l'épiscopat peut aussi rejaillir sur la richesse de ce qu'est RCF.
Dernière question, comment toucher les moins de 50 ans par le média radiophonique ? Pourquoi n'y a-t-il pas de radio proposant des groupes chrétiens de louanges ?
Ah, je sens une adhésion dans le public sur cette question. Je ne me suis pas trompé. C'est quelque chose auquel on travaille doucement. J'expliquais qu'on a 27 ou 28 ans d'existence aujourd'hui. Je crois que les groupes de louanges se multiplient. On était très présents au festival de Pâques à Chartres cette année. On y sera de plus en plus présents, je le pense. Et la programmation musicale va évoluer. Mais une radio est un média qui vit aussi en douceur. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer les habitudes. Il faut accompagner l'auditeur. Il faut être au service aussi de ces nouveaux courants, de ces nouvelles musiques qui naissent, de la louange. La louange, elle prend aussi de multiples formes. Le Magnificat est une louange, le Notre Père est une louange. Il y a beaucoup de choses qui sont de la louange. C'est parfois dans l'expression musicale qu'on parle de louange. On est sensible à ces évolutions et on travaille à les accompagner comme on peut, mais en douceur aussi, pour que les choses ne se fassent pas avec force ou avec trop de frottement, si j'ose dire.
Merci. Alors, quelques petites questions flash pour l'invisible. Y a-t-il des lieux où la distribution de l'invisible n'est peut-être pas autorisée, entre guillemets, par le curé ? Peut-on le distribuer aussi dans des lieux comme devant une université publique ou dans des lieux, dans des espaces qui nécessitent peut-être sans doute des agréments ? Est-ce que nous sommes, et si nous sommes un groupe de bons chrétiens, entre guillemets, et que le curé est contre, est-ce que nous avons et que nous n'avons que peu de moyens, pouvez-vous quand même nous l'envoyer au seul prix de l'expédition ? Ah non, non, mais je fais le...
Mais c'est vrai que la première question...
Je dirais la réponse comme évêque. C'est
l'évêque de répondre. Mais... Il y a des lieux où il faut demander l'autorisation, c'est évident. Une gare ou un métro, il faut avoir l'accord du chef de gare ou du chef du métro. Ensuite, à la sortie d'une paroisse, je pense que c'est quand même bien de demander l'autorisation au curé. Hein. Ça me paraît le minimum. Maintenant, je pense que si jamais il y a un groupe de chrétiens motivés sur la question, l'idéal, c'est quand même d'aller en parler au curé. Parce que il n'est pas forcément naturellement hostile, le curé. Il a peut-être peur juste de ne pas avoir les moyens de le diffuser, de le distribuer, de le financer. Donc s'il a en face de lui un groupe de paroissiens motivés, prêts à se bouger pour acheter l'invisible et le distribuer, ça peut aider à faire basculer les choses. Et ensuite, il y a des tas de paroisses qui ont vu et démarché un certain nombre de commerçants en demandant l'autorisation, par exemple, de déposer l'invisible. Donc, je sais que par exemple il y a le père Amaury Cario dans le Val d'Oise qui a même fait en sorte qu'il y ait des dépôts de l'invisible chez les petits arabes du coin, vous savez, donc il le distribue aussi volontiers, c'est sympa.
Y a-t-il un site internet de l'invisible ?
Oui, il y a un site internet qui s'appelle l'invisible.com, hein, sachant que le 1 s'écrit avec un chiffre 1, donc je prononce très mal, je sais, par rapport à tous ceux qui sont au sud de la Loire là, mais en gros, il y a un site internet qui est pour l'instant basique, mais qui va se développer et qui devrait devenir petit à petit un site d'évangélisation. Enfin, c'est ce à quoi on est en train de travailler, avec notamment Jean-Baptiste Maillard, qui fait partie de l'équipe de l'Invisible et qui va faire partie de la deuxième table ronde tout à l'heure.
L'Invisible comme outil d'évangélisation dans les écoles catho et auprès des enseignants.
Ouais, ça, il y a quelque chose. C'est aussi une des possibilités qui se développe. C'est-à-dire qu'on voit que parmi les clients, aujourd'hui on a des paroisses, mais on a aussi de plus en plus d'aumôneries, d'hôpitaux, d'aumôneries de prison, d'aumôneries de lycée, d'aumôneries d'étudiants. Très concrètement, en septembre prochain, il y a déjà une trentaine de diocèses qui va utiliser, enfin de pastorales des jeunes des diocèses qui va utiliser l'invisible pour annoncer les JMJ 2011 à Madrid avec un encart de 4 pages et en le distribuant et le diffusant dans les facs, dans les lieux de passage des étudiants et des jeunes professionnels. Voilà. Donc je vois que Guézou a sévi.
Alors, y a-t-il un moyen de faire parvenir l'invisible directement chez les abonnés ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dans le journal que vous verrez, il y a un petit coupon d'abonnement. On peut s'abonner pour un exemplaire par mois pour 15 euros. Et on peut s'abonner pour recevoir 5, 10 ou 20 exemplaires pour une somme un peu plus importante si on est soi-même patron d'une petite entreprise ou dans une aumônerie ou quoi que ce soit pour pouvoir le distribuer plus largement.
Question pour RCF. Souvent, on entend qu'il y a une belle émission et on n'arrive pas à l'écouter. Où est la place des émissions à la demande ? Téléchargeables en MP3, quel avenir ?
Ça, c'est une question très importante parce que c'est vraiment l'avenir et le développement du média radio. Aujourd'hui, on est en train de travailler, hein, je le dis très clairement, un site de podcast et de réécoute des émissions en ligne. Je ne voudrais pas faire d'effet d'annonce parce qu'après, si c'est en retard, on va me le reprocher, mais en octobre-novembre, ce site devrait être opérationnel. La consommation radio change beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société où les gens veulent consommer du média comme ils veulent, quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus prêts à attendre une demi-heure que l'émission qu'ils attendent passe, ils veulent pouvoir la retrouver à n'importe quel moment sur leur ordinateur, etc. Donc c'est une évolution majeure de la radio aujourd'hui, et je pense que demain, le média radio sera peut-être plus écouté sur des ordinateurs à la demande que véritablement dans le flux continu, sauf dans un endroit qui est la voiture, et qui reste quand même le lieu, même si avec des MP3 et des téléchargements, on pourra y arriver. Donc, on y travaille. Je sais que beaucoup d'auditeurs nous disent « j'ai pas pu entendre cette émission à telle heure, est-ce que je peux la retrouver ?» Je pense que dans 6 mois, on sera au point pour offrir ce service, qui est un développement incontournable de la radio aujourd'hui. Et cet univers numérique qui va permettre de faire des tas de choses en radio est extrêmement important, parce que je crois aussi qu'il va nous permettre de rejoindre tout un nouveau public qui n'est plus forcément adepte de brancher son truc FM dans sa voiture, dans sa salle de bain ou dans sa cuisine. C'est-à-dire que via le numérique et des émissions en réécoute, on va pouvoir toucher tout un public de jeunes notamment qui surfent beaucoup sur Internet, qui passent du temps à aller d'un site à l'autre, mais qui n'écouteront jamais une radio traditionnelle.
Alors une question qui s'adresse aux 3 intervenants, mais je vais donner la parole à Claude Brenti. Dans ces 3 interventions, nous avons entendu de beaux témoignages, de premières annonces. Comment pensez-vous un suivi, un lien, un approfondissement à partir de cette première annonce?
En fait, l'expérience, nous, c'est justement de voir que, par exemple, dans notre domaine de l'édition, mais autant à travers le livre qu'à travers d'autres médias, même des CD, etc., des vidéos, et ça, c'est vrai pour toutes nos communautés, hein, Chemin Neuf, Emmanuel, Béatitude, justement, il y a beaucoup de gens qui ont fait une rencontre du Christ, hein, comme nous-mêmes, et qui, après, avaient besoin d'un approfondissement. Et c'est certain qu'avec ces médias, en particulier avec les livres, justement, on peut proposer toute une palette d'outils, même de formation, d'approfondissement. Si vous voulez, notre best-seller, vous le connaissez peut-être, le livre « Recherche la paix et poursuis-la toujours », c'est un livre d'approfondissement sur le thème de comment trouver vraiment la paix du cœur. C'est vrai que, bon, en France, on en a vendu, enfin, dans le domaine, la version française, on a vendu plus de 100 000, maintenant, je crois, on est à 120 000 exemplaires. C'est énorme, toucher 120 000 personnes. Et c'est traduit en 17 langues, donc ça va partout dans le monde entier. C'est vraiment l'approfondissement de la spiritualité, trouver la paix, mais, ou la liberté intérieure, ou d'autres thèmes. Donc, c'est vrai qu'à travers, justement, enfin, le livre est intéressant, mais il y a aussi d'autres médias, parce que ça permet de faire le point sur un sujet, hein, et de l'approfondir. Ce livre-là, on va en parler cet après-midi, évangéliser en paroisse, c'est toute la question de l'évangélisation à travers la paroisse, bon, les cellules paroissiales d'évangélisation. Mais c'est vrai qu'à travers différentes thématiques, par exemple, on le développe à travers des thématiques. Nous, on fait comme ça, par exemple, la thématique la vie de couple, la vie de famille, eh bien, on fera des livres spécifiques pour ça. Il y a aussi une dimension, par exemple, de reprendre dans des livres des retraites ou des cours ou des sessions, vous voyez, qui permettent donc à ce moment-là un approfondissement.
Oui, par rapport à ça, on ne peut pas être complet, enfin, je veux dire... Si on déclenche quelque chose, si la première annonce porte ses fruits, il faut que, en ce qui nous concerne, en tout cas, les auditeurs, alors bien sûr, ils peuvent être accompagnés par des livres, des lectures en plus, mais ils peuvent aussi se rapprocher de mouvements d'église d'une façon ou d'une autre, qui vont ensuite les prendre en charge. On ne peut pas être au début et à la fin de toute la chaîne. On est une partie de cette chaîne, et c'est là qu'il faut jouer en partenariat avec tous les milieux d'église, quels qu'ils soient, parce que c'est vers ces milieux-là, ensuite, qu'ils vont trouver les gens, qui vont pouvoir se former, qui vont pouvoir avancer. Quelqu'un qui veut... Cette dame que je citais tout à l'heure, qui s'est faite baptiser, c'est pas RCF qui l'a baptisée. Enfin, je veux dire, la démarche sacramentelle, elle appartient à l'église, et il faut que les gens reviennent vers ces lieux-là. On est... À mon avis, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de le penser, un lieu qui déclenche, mais qui n'est pas une finalité, qui n'est pas la totalité de ce qu'est l'Église aujourd'hui, bien heureusement. Au contraire, il faut que les gens qui entendent ce message aient envie de revenir vers les communautés, qu'elles soient diocésaines, qu'elles soient particulières, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient monastiques, etc. Voilà, pour moi, c'est très important. Il y a des outils, mais après, la démarche d'Église doit être vécue dans d'autres lieux.
Je voudrais juste dire en deux minutes, enfin témoigner, parce que j'ai profité et bénéficié à la fois de RCF et de la presse enfin, écrite, hein, à l'occasion, donc on le mentionnait tout à l'heure, d'une retraite que j'ai eu la joie d'organiser donc, à Ars. Je disais en riant hier soir à Mgr Rey, moi j'évangélise les curés, c'est-à-dire que j'ai organisé une première retraite en 2005 et puis ensuite en 2009, donc il y a quelques mois, une retraite pour prêtres à Ars. Et c'est vrai que j'étais très frappée parce qu'on a reçu des témoignages à la fois de prêtres qui n'étaient pas présents sur place à Ars et de laïcs qui étaient branchés sur RCF et qui ont été vraiment bouleversés par ce qu'ils ont entendu, à la fois les conférences, les liturgies. Donc je crois que c'est aussi, enfin pour moi c'est vraiment le signe que c'est un relais important. L'autre chose que je voulais dire, c'est juste, qui que vous soyez ici présent, et ça vous pourrez le relayer, ne laissez pas de côté les inspirations de l'Esprit Saint. Parfois, quand on a une idée, on se dit oui, bon, bah, c'est une idée, elle est rigolote, elle est originale, elle donne pas grand-chose. Mais moi, ces deux retraites qui ont été organisées à Ars pour les prêtres, c'est vraiment l'Esprit Saint. C'est-à-dire que on a l'impression, enfin moi je le définis un petit peu comme le définissait le père Emiliano Tardif, plus comme une distraction. C'est-à-dire qu'il disait quand il recevait une parole de guérison, une parole de connaissance, on lui demandait mais comment est-ce que ça vous vient? Il dit moi ben c'est voilà, je suis en train de prier, puis c'est sous forme de distraction. Et là moi c'est venu vraiment tout à fait impromptu, à l'improviste, j'avais rien prémédité. Donc soyez attentifs, et c'est vrai que ça peut être à l'origine de, je crois quand même, de belles choses, hein, parce que je crois que ces deux retraites qui ont été organisées étaient vraiment quelque chose qui a porté du fruit, et d'événements, bon, il se trouve que la deuxième était dans le cadre de l'année sacerdotale, et ça c'est encore le Saint-Esprit, parce qu'on a organisé ça, on a commencé à s'en occuper il y a 2 ans, donc il n'était pas du tout question à l'époque d'année sacerdotale. Donc je crois que ne méprisez pas et n'éteignez pas l'Esprit Saint, soyez vraiment attentifs aux petites distractions ou aux idées que vous avez, bien sûr à faire vérifier, mais très souvent le Saint-Esprit peut passer par là.
Voilà, merci beaucoup aux intervenants, je dirais comme évêque, non pas simplement ceux qui passent la parole. Je me réjouis de la diversité que vous représentez et toutes les initiatives qui ont besoin les unes des autres. On ne peut pas, avec un seul média, avec un seul langage, toucher la totalité de ceux que l'on veut rejoindre. Et donc c'est cette diversité qui est extrêmement riche, mais qui nécessite à la fois un ancrage ecclésial, un ancrage spirituel, pas dire n'importe quoi, on est témoin d'une vérité dont on essaie de témoigner et d'attester, et en même temps de pouvoir vraiment s'appuyer sur les uns les autres, comme on le fait dans le cadre de ce forum Communion Évangélisation, où chacun prend sa part de la commune mission de l'Église. Merci à tous. On va prendre quelques instants après une petite pause musicale, un petit moment de récréation, et puis on se retrouve ensuite pour le deuxième forum.